Vous êtes né en quelle année?
Moi, je suis né le 11 septembre 1925 à Oigny.
À Oigny, dans le Pas-de-Calais. Donc, au moment où la guerre est arrivée, vous aviez quel âge?
Non, j'avais un bon 14 ans et demi, quoi. Enfin, les événements de 40, quoi. Bon, la guerre en 39, ça faisait juste 14 ans, hein. Mais les événements de 40 qui nous ont plus marqués, j'avais 14 ans et demi, quoi, disons.
Vous l'aviez vu arriver, cette guerre? Il y avait des signes précurseurs?
Non, hein, pas précisément. Hein. De toute façon, je crois que tout le monde était surpris. En mai 40, c'était l'attaque de la Belgique. Avant, c'était la drôle de guerre. Tout le monde restait sur place. Hein. Il n'y avait personne qui bougeait. J'avais des cousins qui étaient mobilisés dans l'Est. Bon, ils disaient qu'il n'y avait rien, il ne se passait rien pratiquement. RAS sur le front. Alors donc, en mai 40, quand les Allemands ont attaqué, c'était la grande surprise. Et c'était assez vite l'affolement.
Alors, à Oigny, l'attaque, elle est arrivée directement?
L'attaque est arrivée... Oui, les Allemands avançaient depuis un petit moment quand même. Et les gens commençaient à avoir peur parce qu'il y en avait beaucoup qui connaissaient la guerre 14, qui avaient été occupés en 14-18, qui avaient peur, et on parlait toujours d'évacuation. Je me demande d'ailleurs si ça n'avait pas été orchestré un peu par les Allemands eux-mêmes pour apeurer la population, de façon à mettre beaucoup de monde sur les routes et empêcher d'autres opérations militaires du côté français.
Vous avez évacué?
On a évacué, comme tout le monde, on est parti pendant quelques jours. On est parti à vélo. Moi, j'avais ma cousine Lydie et puis sa mère qui étaient partis avec une autre cousine en voiture et qui ont gagné le sud. Mais nous, on était restés et on est parti à vélo, je me souviens, je sais pas si c'était un lundi, après quelques bombardements qu'il y avait eu à Oigny, un avion notamment qui avait déversé des bombes et qui avait fait des dommages du côté du stade, par là, quoi, là, Jean-Jacques Rousseau. Alors, on est parti donc quelques jours après. Jacqueline est partie aussi à ce moment-là avec son père et sa mère. Ouais.
Alors, cette évacuation, elle était faite en masse?
Nous, on est parti avec ma tante, mon oncle Léon, mon père, ma mère, Georgette, et puis c'est tout. Hein, on est parti avec des vélos qu'on poussait à la main, comme ça. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler d'Ulu et de Benny Fontaine, que je ne connaissais pas, mon père. Et il a dit, on va passer par là, je ne sais pas pourquoi, tout le monde parlait de Saint-Paul, d'aller à Saint-Paul, qu'il y aurait encore des trains, parce que les gares d'Arras, Douai, avaient été bombardées. Hein, et alors on est parti comme ça. Le soir, on est arrivé à Saint-Angoël, où j'avais des cousins. On est resté là, il y a eu un bombardement. Et alors le lendemain, ou surlendemain, je ne sais plus si on est resté une journée ou bien seulement la nuit, mon père a dit c'est pas la peine. D'ailleurs, tout le monde disait que les Allemands approchaient de Saint-Paul, qu'on ne pourrait jamais passer. Alors mon père a dit on fait demi-tour, on va rentrer à Oigny, c'est tout. Et on a eu des difficultés pour revenir parce que les Anglais devaient faire sauter un pont sur le canal de la Dole, là, et ils voulaient pas laisser passer, ils voulaient laisser passer personne. Donc on était bloqués là, tout près du pont, il allait sauter, il allait pas sauter, on savait pas exactement, quoi. Et finalement, ils ont laissé passer les gens, alors on s'est dépêché de rentrer, on est repassé par Merchin, Carvin, et puis Oigny.
Donc la maison a été abandonnée pendant 2 jours et demi. Ça
ouais,
fait
2 jours et demi, 3 jours maximum. Quoi, ouais. Hein,
ça ouais. Fait quelle impression de rentrer chez soi après?
Ben, je sais pas, c'est curieux, j'ai pas de souvenir précis du retour. Il devait y avoir eu des gens qui étaient venus ou des soldats qui étaient passés et qui avaient pris des provisions, enfin, je ne sais pas, mais bon, la maison n'était pas endommagée, rien, mais moi, le souvenir de la rentrée, je ne l'ai pas conservé, je ne sais pas pourquoi.
Donc les Allemands débarquent finalement?
Ben, c'était le 27, je crois, ça se rapprochait, 26 même, le 26 mai, ça se rapprochait, on entendait des roulements de tirs d'artillerie et tout ça. Bon, alors, on avait préparé les caves, j'avais un oncle qui travaillait aux mines et qui avait boisé les caves avec des billes de pain, et puis bon, on avait tout préparé, on pouvait coucher là et on dormait dans les caves. Ouais. Alors c'était le 26, puis alors le 27, alors là c'est devenu beaucoup plus précis, on a entendu des tirs d'artillerie qui se rapprochaient, on entendait siffler des obus, et tout ça, et tout autour de la maison, il y en est tombé. C'était pas de très gros, mais enfin, on en entendait quand même tomber pas mal. Et le lendemain matin, donc le 28 mai au matin, ben on a entendu des bruits de bottes dans la cour, on avait mis des sacs en face du soupirail, on voyait pas grand-chose. Et par conséquent, on ne savait pas si c'était des Français, si c'était des Allemands. Il y a peut-être eu d'abord des Français, puis ensuite des Allemands. Puis après, on a entendu vraiment des sonorités gutturales. Là, c'était vraiment, on savait que c'était des Allemands. Alors, on a dit, il faut remonter. Puis on a entendu des bruits de verre brisés dehors. Donc, on a dit, il faut remonter. Alors ma tante, ma sœur et puis ma mère sont remontées d'abord. Et puis les Allemands sont rentrés dans la maison à ce moment-là et ils ont dit de partir, sortir et dehors. Puis nous on est remontés, alors je suis remonté l'avant-dernier et mon père, lui, est sorti le dernier. Et alors là, il y a des soldats allemands qui nous ont frappés dessus. Mm-hmm. J'ai reçu un coup de poing sur la tête par un Allemand, et puis qui voulait me jeter dehors. Il voulait m'en redonner un, je me suis baissé, esquivé, puis je suis couru dehors. Et mon père, il a reçu des bourrades dans le dos, et puis il y en a un qui disait « c'est la guerre » qu'il a dit. Et puis il dit « Raus, canal ». Alors on est parti comme ça. Et en face, la maison chez Fissio, qui était en face, était déjà tout en feu. On avait entendu casser des carreaux et la maison brûlait déjà. Ils avaient sans doute jeté des grenades incendiaires à l'intérieur et tout flambait à ce moment-là. Ça, c'est un souvenir dont je me rappelle bien. Hein.
Donc dans l'ensemble des maisons d'Oigny, c'est à peu près la même chose,
hein? Bah, c'était un peu pareil, oui, peut-être même pire, parce que nous, on était quand même un peu excentrés par rapport au village. Hein? La rue Casimir-Beugnier était quand même... elle donnait dans les champs, derrière c'était des champs. Hein? Donc c'était quand même pas là que se regroupait toutes les forces armées, quoi. Hein? Donc... ils avaient envoyé sans doute des équipes pour vider tout le village, quoi, mais c'était pas le gros, quoi, c'était que quelques-uns, quoi, simplement. Je n'ai pas dit que... Alors, quand on est parti, j'ai un oncle qui était avec nous, hein, qui avait évacué avec nous et qui restait chez nous, et le 27, il était sorti pour aller chercher du pain. À un moment où c'était un peu plus calme, il a dit, je vais aller voir pour avoir du pain. Alors, il est sorti et puis il ne revenait pas. Et mon père regardait dehors et il a vu qu'il était couché dans le ruisseau, un peu plus loin, près du garage, Cacherotte était là. Et il est allé voir, et ben il était mort, il avait été frappé par une rafale d'armes automatiques ou de fusils, je ne sais pas. Et un voisin en face, il a dit, il faut rentrer chez vous, il y a des balles qui viennent d'arriver dans ma maison, dans le couloir, donc il faut rentrer. Et quand on est parti, alors que les Allemands nous avaient chassés le 28 au matin, eh bien, on l'a vu là sur le côté, il y avait une petite tache de sang dans le ruisseau, il y avait sa cigarette encore aux lèvres, et puis on ne pouvait rien faire, on est parti, et on a quitté donc la rue Casimir Beunier, puis on est parti vers le centre du village, puisqu'il fallait aller au canal. Il disait toujours « canal, canal ». Il y avait quelques Allemands qu'on croisait à Eraus Canal. Donc on est parti. Alors là, bon, j'ai vu des gars qui étaient égorgés, j'ai vu des gars qui brûlaient, la maison qui brûlait. Je me souviens de plusieurs incendies, vraiment. Il y avait une maison de meubles pas loin de l'école Sainte-Henriette. C'était une maison de meubles, ça flambait, et il faisait une chaleur incroyable. Sur la place, on est arrivé sur la place, j'ai le souvenir de chevaux qui étaient gonflés, qui avaient été tués, puis qui étaient tout gonflés. Également quelques souvenirs d'un Allemand qui avait de l'herbe dans son casque, là, et puis qui avait des grenades, une grenade dans chaque botte. Des grenades, ils ont des grenades à manche, hein, de bois, une grenade dans chaque botte. On est parti, on était un petit peu abasourdi, hein, de tout ça. On est parti, on a pris la route pour la Courrière. Là. Et on est passé près de la menuiserie Grulois, c'est pareil, elle était tout en flammes, et j'avais mis mon pardessus, ma mère avait dit pour le prendre pardessus, parce qu'il faisait pas très beau, et mon pardessus était tout roussi, on a dû se mettre complètement contre le mur d'en face, et mon pardessus était tout roussi sur l'épaule, tellement ça chauffait, hein. Et il paraît que ma grand-mère, qui pouvait plus se déplacer beaucoup, qui était sur une petite charrette tirée par un oncle, chez qui elle restait, eh bien, ses vêtements, en passant là, ses vêtements ont commencé à brûler. Il a fallu l'éteindre comme ça sur elle. On est passé, et puis on est gagné le canal. J'ai le souvenir encore d'un soldat, c'était un soldat anglais, on le reconnaissait au casque. Il y avait la figure à moitié ouverte, quoi. Il avait dû recevoir un éclat d'obus dans la face. Et il y avait tout le côté qui était... C'est des souvenirs comme ça qui restent, quelques-uns, quoi, qui m'ont marqué, quoi. D'autres ont vu autre chose. Moi, c'est cela dont je me souviens, hein. On n'enregistre pas tout, et tout le monde pareil non plus. Puis on est allé vers le canal, et puis là-bas, on nous a parqués dans un champ. Et puis, on a attendu. Puis après, il s'est mis à pleuvoir. Et puis, les Allemands passaient et ils emmenaient les hommes, les jeunes en particulier, enfin les jeunes, disons 18 ans, 15, 16, 18. Et ma mère m'a dit de remonter mes pantalons pour avoir des culottes courtes, quelque sorte, pour paraître moins âgé, quoi, si on veut. Puis ils sont passés, ils ont gardé les cartes d'identité. Mon père était plus âgé, ils l'ont laissé, et puis on a attendu. Puis dans l'après-midi, on n'entendait plus rien. On voyait, on a vu quelques gens qui repartaient, je crois que c'était le curé peut-être, et puis le maire, ils sont retournés vers Oigny, et puis on a suivi. On est rentré à Oigny, alors là, évidemment, il y avait des dégâts, parce que le hangar avait brûlé, ça avait mis le feu dans le bois, sans doute, il y avait du bois cassé, il y avait du bois... de réserve, il y avait du charbon, hein, et tout ça avait brûlé, le hangar était complètement brûlé, et on ne pouvait pas beaucoup approcher parce que le tas de charbon, il dégageait beaucoup de chaleur. Mais enfin, la maison, elle, avait été épargnée. Et à l'intérieur, on a vu qu'il y avait des dégâts aussi, ils avaient culbuté les meubles, notamment dans la pièce devant, ils avaient renversé et ils avaient mis le feu, mais là ils avaient mis ça avec de la paille, du papier sous les chaises, mais ça n'a pas pris. Il n'y avait sans doute plus de grenades incendiaires parce que. Et dans la rue, il n'y a eu que la maison de chez Fission en face de chez nous là, qui a brûlé. Les autres, il y a eu le feu également, ils avaient mis. Mais du feu comme ça avec. Du papier avec de la paille, enfin des choses comme ça, que ça n'a pas amené l'incendie des maisons.
Donc, tout Oigny se prépare à vivre une période d'envahissement intense et puis une organisation qui se met en place peut-être.
Oui, alors là, c'est, je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'on était un peu sonné, ou c'est moi qui ai peut-être plus des souvenirs très très nets, mais enfin, les jours suivants, je me rappelle plus trop, à part. L'oncle là qui avait été tué, enfin c'était un grand-oncle, c'était le frère de ma grand-mère, et qu'il a fallu mettre dans un cercueil. Mon père a fait faire une caisse en bois à un menuisier, puis il l'a mis dans cette caisse avec un voisin, et on a fait un trou sur le côté du jardin là, pour le mettre là, en attendant que ça soit réorganisé au point de vue administratif et municipal. Parce qu'il y avait eu tellement de morts à Oigny, il y en avait eu, je ne sais pas moi, 80 fusillés, il y avait eu beaucoup de maisons brûlées, donc tout était perturbé et il fallait s'occuper de reloger des gens, tout ça. Donc, il y avait des gens qui ont été mobilisés aussi pour aller ramasser les cadavres pour mettre ça au cimetière. Enfin, je ne sais pas exactement, moi j'étais trop jeune, j'avais 14 ans et demi, je n'étais pas réquisitionné pour ça. Et donc on a mis mon oncle là sur le côté en attendant, on fait un trou sur le côté du jardin. Et puis. Quelques temps après, quand tout a été plus organisé, ils sont venus le chercher, une charrette de la mairie qui est venue, puis ils l'ont fait le mettre dans son caveau. Mais avant, il a fallu ramasser tous les cadavres dans la ville, et les soldats et tout. Il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, il y avait des Marocains, il y avait un petit peu tout ça, des Français. Donc. Il fallait organiser tout.
Oui, donc, les Allemands ont envahi toute la ville. Ils organisent l'occupation. Et comment se passe la vie à ce moment-là dans le village ?
Ça redevient, disons, à peu près normal, quoi, à part le rationnement. Mais... C'est à peu près normal, quoi. On refait du pain, enfin, un peu d'épicerie, tout ça. Puis on avait quand même quelques réserves, donc c'était. Puis on avait des jardins, hein, on mangeait donc des légumes, tout ça, c'était pas trop compliqué. À part aussi la viande, il n'y avait plus de viande non plus, mais il y avait des temps en temps un cultivateur qui tuait un cochon ou des choses comme ça. Et on arrivait à avoir un petit peu de viande. Puis le rationnement s'est mis en place aussi. On nous a distribué des cartes d'alimentation. Et puis, on avait de la viande une fois de temps en temps. On avait du pain, c'était autant de grammes par personne. Et ça, je me souviens bien qu'on allait chercher du pain. Et puis, la boulangère, elle avait des grands pains. Et avec un couteau, et elle coupait des morceaux, quoi. Je sais pas, un couteau comme, je sais pas comment ça s'appelle ça.
Un couperet, non ?
Un genre de couperet qui était fixé sur la table, et puis elle soulevait la lame, elle passait le pain, et puis elle avait sans doute un peu l'habitude, elle coupait comme ça le pain, et puis. Elle le pesait et on avait autant par personne, c'était 250 grammes par personne ou des choses comme ça. Alors avec les tickets, il fallait découper les tickets et puis le donner. C'est des trucs dont je me souviens ça. Une fois par mois, on avait aussi le ravitaillement à l'épicerie. Alors il y avait une carte d'alimentation, il fallait donner les tickets et puis pour avoir... de l'huile, du sucre, un peu de chocolat, des choses comme ça, quoi. Je me dis, bon, la vie, on n'a pas, je ne peux pas dire qu'on ait souffert de la faim, non.
C'était quel mois
ça. Ben ça a été après, donc, je ne sais pas, pendant les vacances, donc au mois de juillet, août, tout ça.
Alors la rentrée scolaire s'est faite quand même ?
La rentrée scolaire s'est faite, c'était donc en 40, oui, elle s'est faite, mais je crois qu'on a rentré un peu plus tard. Je ne sais plus exactement les dates, mais je crois qu'on est rentré un peu plus tard, encore qu'on recommençait en octobre à ce moment-là. Peut-être, mais enfin, l'académie avait trouvé des instituts. Moi, j'allais au cours complémentaire à Carvin, et ils avaient trouvé des instituts, mais c'était des jeunes normaliens qui sortaient.
Et à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils disaient, les instituteurs de la guerre de...
On n'en parlait pas.
Non ? On faisait classe comme si de rien n'était.
On faisait l'école comme si rien n'était.
Et la morale, pas... tout ça, l'instruction civique, ça se faisait comment alors ?
Tu sais, là, on n'avait plus de ces... Non, il ne devait pas y avoir de notion d'instruction civique, bon, cours complémentaire, je ne crois pas, non. Je ne me souviens pas. C'est plutôt dans les classes plus petites, au cours supérieur, et tout ça. Mais là, je ne me souviens pas. Peut-être ce qu'on faisait quand même un peu, c'était le directeur de l'école qui venait faire une fois par semaine, je crois, des trucs sur l'éducation civique et puis le droit aussi. On avait un bouquin où on parlait des contrats de mariage, enfin des trucs comme ça. Mais non, on ne parlait pas vraiment de... De toute façon, je crois bien que les instituts disaient trop rien non plus. Hein. Je sais pas, une fois, j'en ai pas le souvenir. Hein, moi.
Vous n'avez pas de consigne particulière, a priori ?
Non, il n'y avait pas rien. Non, il fallait travailler pour aller au brevet, puis c'est tout. Quoi. Mm-hmm. Mais c'était en somme la dernière année, l'année du brevet. Hein. Donc, il n'y avait pas rien de... Non, on n'avait pas de consigne particulière. Non.
Donc les Allemands avaient pris finalement la place des habitants dans leur maison.
Ben, il y avait des Allemands qui ont, qui séjournait et qui avait un cantonnement à Oigny. Il y avait pas mal de maisons où ils avaient un, deux, trois Allemands qui logeaient là, qui couchaient là. Ils avaient réquisitionné des pièces dans les maisons et puis, ils logeaient chez l'habitant, comme ça. Mais chez moi, il n'y en a pas eu. Je ne sais pas, ma mère attendait. C'était en 41, alors là, c'était plus tard que ça s'est fait, ça. Ils ont installé un campement à Oigny, mais plus tard. Ah oui. Et ma mère attendait qu'il ait André, donc, je ne sais pas, mon père, il aura dit sans doute, et puis ils n'ont pas mis personne chez nous, parce qu'on ne pouvait pas tellement séparer les pièces. La pièce donnée, elle était... Il n'y avait qu'une cloison vitrée entre la pièce de séjour et ce qu'on pourrait dire le salon qui était devant. Et ils n'ont pas rien réquisitionné. Mais on avait des voisins qui avaient souvent deux Allemands.
Ça a duré combien de temps, cette invasion ?
Je me souviens plus combien de temps ils sont restés.
Ils sont repartis quand et comment ?
Je ne sais plus à quel moment ils sont repartis. Il y en a beaucoup qui sont partis, c'est quand le front de la Russie, le front russe a été beaucoup plus sérieux pour eux, qu'ils ont commencé à reculer en Russie et qu'il a fallu beaucoup de soldats là-bas. Et il y en a plus d'un qui disait qu'il partait sur le front russe. Donc, je ne sais pas en quelle année, c'est peut-être en 42 par là, ou 43, que les Allemands ont quitté Oigny, tout au moins. Je crois. Oui.
En 40, 42, 43, il y a eu aussi la chasse aux Juifs.
Hein. Je n'ai pas eu du tout connaissance de rien. Rien du tout, non. Mm-hmm. Je n'ai pas entendu parler, non. Et on n'a pas vu de gens qui étaient avec des étoiles et tout ça. Le seul souvenir que j'ai, moi, c'est, j'étais en 42, 43, tout ça, j'étais à l'école normale à ce moment-là, hein, parce que le concours, c'était en 41, oui, donc j'étais à l'école normale à partir de la rentrée 41. Je me souviens d'une personne, une seule personne à Arras, qui avait une étoile jaune sur son vêtement. J'en ai pas vu d'autres, je me souviens que d'une seule personne. Ouais. Ouais. Et la chasse aux Juifs, je sais pas, on n'a pas beaucoup entendu parler. Pourtant, on devait préciser quand on a fait la demande d'entrer à l'école normale. Eh bien, il fallait préciser qu'on n'était pas juif, tout ça. Enfin, c'était des documents qui étaient signés par les parents, quoi. C'était les parents qui prenaient ces décisions de signer, et nous, on ne le donnait pas. Et je ne savais même pas que c'était dans le dossier, et on l'a su seulement il n'y a pas très longtemps, c'est quand on a pris notre retraite, donc c'est pas... En 80, on a su qu'on a retrouvé dans les dossiers, quand on a ressorti les dossiers des enseignants, qu'il y avait encore cette déclaration comme quoi on n'était pas juif, que les parents ne l'étaient pas. Et ça, l'Académie a fait disparaître tout ça, pareil.
Quand est-ce que vous êtes rendu compte que la guerre allait se terminer ou...
Ben, vous savez, petit à petit, hein, on sentait bien que les Allemands, ils étaient un peu plus chaque fois, chaque jour aux abois, quoi, parce que il y a eu le débarquement, tout ça, mais même avant, l'histoire, on suivait quand même l'avancement des Russes, le front russe, tout ça, c'était suivi. On avait des cartes et puis on mettait des petites épingles.
Et l'information, elle vous venait comment ?
Ben, probablement par la radio. Hein. Par la radio, il y avait des gens qui écoutaient la radio Londres. Hein. Et on savait comme ça. Bon. Chez nous, il n'y avait pas de poste de radio. Donc, c'était par des cousines, des voisins. Enfin, on savait comment ça se passait. Hein. Mais petit à petit, on a senti que les Allemands ils commençaient à lâcher prise un peu à la fois, quoi. Puis après, quand il y a eu le débarquement, alors là, c'était beaucoup plus marqué.
Alors ce débarquement à Wagny, bon, il n'a pas eu lieu dans Wagny, mais, non, mais comment ça, quel effet ça a fait sur les gens?
Tu sais, ça a cristallisé quand même... l'attention des gens, parce que bon, il y a eu pas mal de... On entendait parler de résistants, de résistance, de francs-tireurs, enfin des choses comme ça, quoi. C'était... Moi, je faisais pas vraiment partie de Wagny, puisque j'étais pas là très souvent, j'étais toujours à Arras, hein, donc... mais enfin, j'entendais les copains qui en parlaient, j'avais d'autres qui disaient, ben, un tel, il est dans la résistance, etc., quoi, hein. Ça se passait comme ça. On savait que, petit à petit, il y avait des groupes qui se formaient et qui étaient prêts à intervenir, mais moi, n'en faisant pas partie, je n'étais que vaguement informé, quoi.
Oui, donc, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions vous avez passé votre bac, par exemple?
Ben, le bac, c'était en 1944, oui. Les Anglais avaient bombardé Arras au mois de mai, je crois. Oui. Et on y était, d'ailleurs. Et la gare a été détruite, et puis les environs, tout ça. Et l'école a cessé à ce moment-là. On est retourné chez nous. Et on recevait des devoirs à faire à la maison pour préparer le bac qui devait avoir lieu, donc, au mois de fin juin, quoi. Alors, pour passer le bac, on a reçu une convocation et on est parti à vélo, d'Oigny jusqu'à Arras pour être sur place. Alors, on a passé le bac dans les caves, pas dans les caves, mais au moins dans un petit sous-sol de Saint-Joseph à Arras. Ça, je m'en souviens bien. Et puis, il y a eu encore quelques bombardements. Il y avait eu un bombardement, c'était sur Arras, c'est tombé sur la cathédrale, je crois d'ailleurs, ce jour-là. Hein. On a dû aller dans les caves du restaurant parce qu'on bombardait. Alors, puis après, ça s'est calmé. On a pu passer sans problème l'examen. Et pour revenir, alors on revenait, Jacqueline revenait aussi, et puis Jacob qui avait, et on revenait donc de Arras pour entrer à Wagny. Et en arrivant à Drocourt, il y a toute une armée d'avions qui sont arrivés, c'est des forteresses, on les reconnaissait bien, et puis elles étaient nombreuses, il y avait plusieurs vagues de forteresses, et puis bon, on s'est arrêté là, et je me souviens très bien aussi qu'à un moment donné, on a vu sous les forteresses tout plein de petits points brillants. Et les forteresses, elles étaient donc, elles n'étaient pas encore arrivées à Drocourt, elles étaient encore un peu plus loin. Et donc, je savais que c'était des bombes parce que c'était déjà arrivé une fois quand ils avaient bombardé du côté du pont sur l'Adel, du côté de Courcelles. Donc, je me souviens que j'avais vu ces petits points blancs la première fois, je ne savais pas ce que c'était, mais après j'ai compris que c'était les bombes qui se détachaient. Et alors, avec la vitesse, il est lâché évidemment avant d'arriver sur l'objectif. Et donc, les bombes, on les a vues, elles passaient au-dessus de nous. Enfin, on ne savait pas où elles allaient tomber. Elles ont été lâchées. Et nous, elle passait au-dessus de nous, elle tombait sur nous, on ne savait pas. On s'est bloqué dans un jardin, là, sur le côté de la route. Et puis, bon, entendu, et après, ça fait du bruit, hein, comme si c'était on dirait qu'on vide des sacs de noix. C'est le bruit que ça fait. Et puis, c'est tombé, alors là, sur Hénin-Liétard. C'est pas loin, hein, Drocourt-Hénin, bon... À vol d'oiseau, ça fait pas loin. Hein. Et les bombes sont tombées sur un Hénin-Liétard. Alors, et on n'a pas, on pouvait plus aborder. Il y avait de la fumée, tout ça. On est resté là un bon moment à Drocourt. Puis petit à petit, on a essayé de rapprocher et on pouvait pas rentrer dans les Hénin-Liétard. Ils avaient bombardé, je ne sais pas exactement à quel endroit. Peut-être du côté de la gare des Hénin-Liétard, tout ça. Et puis toute la rue de Dourges qui avait été... Mais nous, on devait passer par là, mais on ne pouvait pas. On a dû passer par des routes, par derrière, la route de Courrières, et puis recouper à travers champs pour revenir.
Chaud.
Ah, il faisait chaud, oui. C'était... Et puis il y avait de la fumée, et puis ça brûlait encore dans les nains. Et nous, il fallait qu'on rentre, donc on est passé par derrière. On a retrouvé le bout de la rue de Dourges, et puis on est revenu à Oigny. Et quand on est arrivé à Oigny, après, dans les maisons là, de la cité numéro 9, eh ben, les gens nous regardaient tout drôle parce qu'ils étaient à leur fenêtre, ils regardaient, on ne voyait personne dans les rues, nulle part. On était un peu... Puis on a su, il y a quelqu'un qui nous a dit que c'était le couvre-feu. On n'avait pas le droit de sortir, personne n'avait le droit de sortir, c'était un couvre-feu parce qu'il y avait eu, je crois, un attentat contre des soldats allemands, je ne sais pas quoi. Donc, alors, en arrivant, là, c'était le bord de Douany, tout à fait, là, puisque c'était un peu après Dourges, on a traversé à travers champs, on est allé à travers champs, dans des petits chemins dans les champs, puis on est revenu à Douany. Comme ça, on n'avait pas à traverser Oigny, on revenait par les champs extérieurement. Et comme on était hein, du côté, je l'avais dit tout à l'heure, qu'on était tout à fait un peu, enfin oui, tout à fait excentré par rapport au village, bon, on a pu regagner comme ça les maisons sans dommage. Mai 45, c'était l'école normale de Douai. Oui, je me souviens qu'on a fait une réunion dans la cour, on a fait une photo, j'ai encore une photo du 8 mai 45. Je me souviens qu'on a fait un monôme dans la ville de Douai, puis que quand on est rentré le soir, le directeur d'école normale à Douai était sur le pas de l'escalier, tout en haut de l'escalier, au palier, là, et puis qui, avec ses bras croisés, puis qui nous a engueulés parce qu'on rentrait après, je sais pas si c'était 10 heures ou je sais pas quoi, on avait quand même 20 ans, et puis il nous a engueulés parce qu'on n'a pas du tout apprécié, hein, quand même. On n'a pas apprécié. Oh, c'était un Alsacien, il faut dire.
Donc, dans la ville, là, c'était Douai, hein ?
C'était à Douai,
je suppose que c'était quand même une fête, hein ?
Ben oui, mais je dis, nous, on n'avait pas vraiment... On était internes, hein, dans l'école normale, on sortait pas vraiment, on avait simplement le jeudi après-midi pour aller en ville, quoi, c'est tout. Et ce jour-là, on a eu sortie exceptionnelle, mais il fallait être rentré pour 10 heures, et puis comme on n'avait pas rentré assez vite... Mais on voyait des gens dans tous les coins, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est attardé sans doute, hein, et puis c'est la foule, la liesse évidemment, mais j'ai dit, c'était un petit peu rabattu comme ça, parce que le directeur nous a attrapé, on n'a pas digéré ça, non, ouais. Enfin, je me souviens, on a fait des photos dans la cour de l'école normale, là. Et il y avait tous les normaliens du Nord et du Pas-de-Calais. On était nombreux, hein. Ça fait au moins plus de 100, hein. Mais... Alors...